On s'en va pour le message de la parole de Dieu ce matin dans le deuxième épître de Pierre, au premier chapitre. On a lu le chapitre au complet tantôt avant le temps de prière. Et là, je vais lire un verset. Un verset qui non seulement résume les choses qui ouvrent le chapitre, mais aussi qui sont en lien avec le thème du mois. Oups! Sébastien, peux-tu changer le mois de, du calendrier? Donc, qui résume le thème du mois. Là, on est rendu le mois d'avril. Notre source d'abondance. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. On vient à toi, Seigneur, pour que tu nous ouvres les yeux sur les merveilles de ta parole, de ta personne, de, Seigneur, toutes les grâces qui sont en toi. Merci que tu es le Dieu de toute grâce, de toute consolation, et qu'on te célèbre aujourd'hui. Seigneur, c'est toi l'objet de notre adoration, c'est toi, Seigneur, qu'on vient adorer. Et on te remercie, Seigneur, de ce qu'on peut être réunis ensemble en ton nom aujourd'hui. Et ce temps, Seigneur, dans ta parole, c'est à tes pieds. Merci que tu nous donnes ce privilège. Puisses-tu, Seigneur, te glorifier, te révéler, faire ce que juste toi peux faire, Seigneur, au milieu de nous, en nous, à travers nous, Seigneur. On s'attend à toi. On te remercie de ce que tu es digne de toute notre confiance. Et Seigneur, c'est au nom de Jésus qu'on te prie toutes ces choses. Amen. L'abondance. Des fois, on pense au terme abondance, puis on peut avoir un petit problème en tant que chrétien. Là, on pense à évangile de prospérité, puis des choses comme ça. Puis il y a des mots, des fois, chrétiens, on a peur de dire, parce que là, on dit abondance, puis là, on pense, OK, à des extrêmes. Des gens qui vont à des extrêmes. Mais je dirais que des fois, il y a ceux qui vont dans un extrême, l'évangile de la prospérité, ou comme j'avais dit la semaine passée, l'évangile fast-food. Puis là, ils réagissent à l'autre bord avec l'évangile de la privation, l'austérité. Les deux sont dans la même source, c'est la chair. C'est de l'hommerie. Mais ces manigances, ces méthodes charnelles ne doivent pas nous faire passer à côté de notre Dieu qui est la source abondante d'eau vive, de paix, de joie, de toutes choses bonnes qu'on a en lui. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin. Avec un peu, c'est pas la suite proprement dit, mais disons que le thème suit ce qu'on a vu. Le Dieu qui prend plaisir en ses enfants. Le Dieu qui prend plaisir en ses enfants. Le problème qu'on peut avoir des fois quand on considère des notions comme celle-là, l'abondance, le Dieu qui prend plaisir à nos enfants, c'est que des fois, vu qu'on ne le comprend pas, on peut arriver à des mauvaises conclusions. Et c'est pourquoi le problème, c'est jamais Dieu. C'est jamais la parole de Dieu. C'est nous autres, comment des fois on ne comprend pas bien Dieu. Et Dieu nous enseigne dans la Bible, Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et cette vie abondante, le Saint-Esprit nous l'enseigne, nous conduit dans toute la vérité. Et il veut et il peut nous conduire dans toute la vérité, dans tout cet accomplissement qu'on voit du plan rédempteur de Dieu. Parce que la vie abondante, c'est le plan original de Dieu. On s'en est éloigné à cause de la chute. Et la restauration, la rédemption qu'on a en Jésus-Christ nous redonne ça. C'est pas juste une quantité de vie quand on parle de vie abondante, comme souvent c'est l'année, tu vas avoir plein de choses. Non, c'est une qualité de vie. Tu as une vie qui a une qualité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et ce que j'aimerais qu'on voit avec ça, c'est que quand on parle d'abondance, on voit l'abondance de l'amour de Dieu, de sa paix. Puis là, quand on parle d'abondance, pensons aussi là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ah, j'ai des problèmes, ça me pèse, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surabonde, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. C'est sur cet angle-là que je veux qu'on regarde aujourd'hui le thème de l'abondance. Mais je dirais que je vais amener aussi une twist un peu particulière sur le fait que nous avons un Dieu qui nous, nous révèle dans la parole de Dieu. Un Dieu qui prend plaisir à ses enfants. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, c'est un concept, je ne devrais pas dire révolutionnaire, là, c'est quelque chose que je sais, ça fait longtemps, mais que Dieu a saisi mon cœur il n'y a pas longtemps là-dessus. Je me suis levé un matin, puis c'est la pensée qui m'est venue. Dieu prend plaisir en moi. Là, c'était pas hédoniste, là, oh, je me moi. Puis, non, mais c'est, hein, Dieu prend plaisir en moi. Moi, je vous dis, là, j'ai de la misère à croire ça. De la misère à... Moi, je me suis habitué souvent à voir que, hey, là, Dieu, il te voit, puis il est pas trop content de ce que tu as fait, tout ça. Mais alors que la Bible nous dit, puis si vous ne me croyez pas, là, je vous donne en rafale plusieurs versets qui nous amènent ça. Okay, je vous les donne, je ne vais pas donner toutes les références, ça serait trop long. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Quel autre aurais-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi, c'est mutuel. Dieu prend plaisir en nous quand on est son enfant, on prend plaisir en lui. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Puis ça, on peut lire aussi dans Jérémie. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dans Jérémie encore, je prendrai plaisir à leur faire du bien. On apprend dans les desseins éternels d'élection de Dieu que Dieu nous a sauvés, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On apprend aussi que même dans la vie chrétienne, quand on est un enfant de Dieu, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Puis parlons d'abondance. La Bible nous dit qu'il a répandu avec nous avec abondance par Jésus-Christ toutes les bénédictions du Saint-Esprit de sa vie. Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et en plus, Dieu nous parle, puis on parle d'évangile de prospérité, des fois ça peut être pris justement dans ce contexte-là, mais Dieu peut vous combler de toute grâce afin que possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On a un Dieu qui est le Dieu de la réelle abondance, celle qui compte vraiment. Pas les gamiques humaines, puis des affaires de vendeurs, de balayeuses à la chrétienne, mais la vraie abondance qui satisfait. Et je dirais tout ça, ça fait partie de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. En passant, quelle meilleure abondance que d'avoir un cœur qui était dur comme la pierre, puis qui est maintenant tendre comme la chair. Où est-ce que on peut jouir de notre Dieu, de l'abondance de sa grâce, de le connaître. C'est la nouvelle alliance, c'est ce que Dieu a fait en nous, à travers nous et pour sa gloire. Donc, que ça puisse être une source d'encouragement à nos cœurs ce matin, ce qu'on va considérer. Cette idée du fait que Dieu prend plaisir en ses enfants. C'est une vérité rédemptrice extraordinaire. Lorsque cette pensée nous anime, ça devient une motivation pour nous-mêmes prendre plaisir en Dieu. Parce que si Dieu prend plaisir en moi, puis qu'il trouve sa joie en moi, ben je peux aussi trouver ma joie en lui. Et je dirais là-dessus, écoutez bien, on parlait d'abondance. Si je prends plaisir en Dieu, en ses voies, cette force-là, plus elle grandit dans ma vie, plus elle va surmonter, plus elle va être plus grande que les plaisirs du monde, que la joie que le monde essaye de m'offrir, la fausse joie. C'est pour ça que ça dit dans le verset 4, « Afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Lorsque Dieu fait cette œuvre de grâce dans nos cœurs, c'est ça qui est la source pour nous libérer de la puissance qui nous tire vers le bas dans le monde. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché puis de la mort. C'est ce que Moïse a vécu. Il préféra être maltraité, pas Moïse, oui Moïse, excusez, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Ça, c'est le vrai évangile de la prospérité. Il a vu l'Égypte, il a dit ça, c'est des trésors qui pourrissent, qui ternissent. Mais Dieu a la vraie vie, celle qui est abondante, celle qui satisfait. Pourquoi? Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Celle de la vraie vie, celle du Dieu vivant qui, lui seul, rémunère ceux qui le cherchent. Donc, est-ce que tu as dans ta vie, à l'œuvre, cette œuvre de grâce, cette puissance expulsante du plaisir que Dieu a en toi et que toi tu prends en lui pour expulser les joies futiles du monde? Puis, je ne suis pas en train de dire en passant, Dieu, dans sa grâce, nous donne toutes sortes de choses ici-bas sur terre pour qu'on en jouisse, puis ça fait partie de sa grâce. Même les gens qui ne connaissent pas la grâce commune de Dieu fait que, je veux dire, on a la santé, on a la vie, le mouvement et l'aide, puis Dieu, dans sa bonté, nous donne ça. Je dis pas que ça, c'est mauvais. Là. Je ne suis pas en train de prêcher un ascétisme froid et distant. Là. Mais je suis en train de dire que ces choses-là ne pourront jamais amener la satisfaction interne, éternelle, que Dieu donne à ses enfants. D'ailleurs, vous lirez Ecclésiaste, c'est ça tout le point d'Ecclésiaste. Dieu nous donne toutes choses sur la terre, mais c'est Dieu qui nous en donne la jouissance. Autrement dit, je veux tout jouer de ça, mais je n'ai pas Dieu. C'est comme un enfant qui a plein de bebelles, des jouets, puis il trouve ça plate parce qu'il y a plein de bebelles, puis de jouets, parce qu'à un moment donné, il en devient blasé. C'est Dieu qui nous donne même la capacité de jouer des choses qu'on a ici-bas. C'est un don de Dieu, selon Ecclésiaste. Donc, je termine mon intro, qui est assez longue. Pensez aux implications ce matin de ce qu'on considère, non seulement pour nous, mais pour ceux autour de nous. Et littéralement, c'est le but de Dieu lorsqu'il nous a créés et recréés, ça c'est la nouvelle naissance, vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu. Savez-vous c'est quoi le but de Dieu? Ça, je pense c'est une confession, je ne sais pas c'est laquelle, là, mais je trouve que c'est bien dit. Là. Le but de Dieu pour notre existence, et en nous sauvant, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui pour l'éternité. C'est pas dans la Bible, mais ceux qui ont dit ça, je pense qu'ils comprenaient quelque chose quand même de Dieu. Okay, on va leur donner ça, là. Prendre plaisir en lui. Puis là, c'est pas de l'hédonisme et du... la philosophie du plaisir, là. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, prendre plaisir en notre Dieu. Donc, on va avoir trois implications de ça. De croire que Dieu prend plaisir en ses enfants. D'abord, l'implication individuelle. L'implication individuelle du fait de croire que Dieu prend plaisir en ses enfants. On lit dans le psaume 16, un beau psaume, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Puis écoutez aussi Ésaïe 42:1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Et ça, c'est ce que Dieu a fait de Jésus-Christ et ce qu'il fait en nous, étant en lui. Et donc, on est participants aussi de ça, Ésaïe 42:1. Et en fait, la vie chrétienne, on en parlait hier, la vie chrétienne, c'est une personne. Jésus est la vie chrétienne. Il est celui qui est notre vie. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Quand on l'a, il est notre vie. Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Et donc, la vie chrétienne, Christ, notre vie, c'est une vie d'abondance. C'est une vie de joie éternelle devant la face de Dieu, mais même ici-bas. Et je dirais que cette vie, cette joie, est une force supérieure qui fait surmonter l'attrait, l'attirance du monde, la tentation, de la dépression, de l'indifférence, de l'hypocrisie, toutes les choses qui nous tirent vers le bas, finalement. C'est le plaisir d'apprécier mon Dieu. Et la beauté, c'est que c'est mutuel. Que Dieu puisse graver sur nos cœurs. Est-ce que vous croyez ça? Si je vous dis un matin, là, Dieu prend plaisir en toi. Est-ce que je suis sûr que ça a de la misère à rentrer? Hein? Il me semble que c'est pas sur le pilote automatique, cette pensée-là. Vous dites, ça m'a réveillé un matin, ça m'a complètement shaké sur le bon sens. Puis j'étais, ben voyons donc, c'est vrai. Ça, on appelle ça l'illumination du Saint-Esprit. Puis des fois, c'est pas toujours en lisant la parole. C'est en me levant, c'est en priant. Puis ça m'a mis ça sur mon cœur. Hein, Dieu prend plaisir en toi. Hein, moi, tu sais, des fois, tu t'en reviens. Moi, oui. Puis il y a une beauté à ça. Et je dirais que c'est de l'apprécier, de grandir dans cette vérité, dans son abondance, son intensité, sa profondeur, de l'apprécier. Le Dieu qui prend plaisir à ses enfants. Et ça doit commencer par la foi personnelle, par l'implication individuelle de tout ça. Ça commence entre nous et Dieu. S'approprier cette pensée, cette conviction qui vient de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, hein, Dieu qui a gravé sa parole sur nos cœurs. Cette Nouvelle Alliance qui fait que notre relation avec Dieu est basée non sur notre performance, mais sur notre acceptation parfaite, qui est basée sur l'amour inconditionnel que Dieu a pour ses enfants.
Amen.
Merci. C'est de là que découlent toutes les autres implications. Parce qu'on va voir après ça la bénédiction sur les autres. Mais là, on commence entre nous et Dieu. Et c'est ça qu'il faut que Dieu grave de plus en plus sur nos cœurs. Nous sommes dans le bien-aimé. Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. C'est pourquoi il nous conserve sa bonté. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, si on est un enfant de Dieu, nous sommes acceptés. Ça veut pas dire que Dieu ferme les yeux sur le péché. Ça veut dire qu'il nous a placés dans son Fils bien-aimé. Et ça, il n'y a rien, absolument rien qui se compare à ça. Pour le dire autrement, on a besoin de simplement s'abreuver à la source abondante de vie, de grâce, d'acceptation en Dieu. Puis ensuite, on va en déborder sur les autres. Qu'est-ce que vous avez mieux à donner aux autres? Ce que Dieu fait en vous. Ce que Dieu a fait en vous, ce qu'il fait en vous. C'est ça le meilleur. C'est Dieu qu'on a le mieux à recevoir, puis c'est Dieu qu'on a le mieux à partager avec les autres. Donc, l'implication personnelle, individuelle, c'est le point de départ. La bénédiction d'une vie qu'on s'approprie, qu'on intègre dans nos cœurs de plus en plus. Et lorsque cette réalité bénie prend place et grandit dans nos cœurs, ça donne la deuxième implication, l'implication fraternelle, de croire que Dieu prend plaisir en ses enfants. Vous connaissez le psaume 33, on a même un chant là-dessus, mais moi, avant, j'étais tout le temps stické sur le début du verset. C'est quoi? Du psaume. C'est un petit psaume, là, trois versets. Ah, mais ça dit que c'est une bénédiction pour les frères de demeurer ensemble. Mais la fin, le dernier verset, ça dit que cette bénédiction là, qui descend comme l'huile sur la barbe d'Aaron, ça dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans la communion fraternelle authentique de la vie de Christ en nous, entre nous, il y a une bénédiction, il y a la vie de Dieu qui est là d'une manière inouïe et bien spéciale. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction de, ou la vie de sa présence manifeste, de sa présence abondante, satisfaisante. Il y a là une unité, une sainteté, puis sainteté dans le sens de apport. Il y a une apportness, il y a une, on dit en anglais, otherness, en tout cas, il y a une mise à part vraiment unique du fait de, dans notre union avec Christ, de s'unir ensemble dans cette union-là. C'est motivé, écoutez bien, par un plaisir mutuel que nous trouvons en Dieu. Ça, c'est unique, là. Ça, dans une religion, là, on sent vraiment, il n'y a pas de plaisir là-dedans. On sent les coudes, on se retrousse les manches, mais dans la Nouvelle Alliance, quand Dieu en nous est vivant et se manifeste, ce plaisir mutuel qu'on a en Dieu et aussi les uns avec les autres, ça, c'est la bénédiction merveilleuse de la communion en Jésus-Christ. C'est le plaisir de s'apprécier mutuellement en abondance. C'est la bénédiction d'une vie partagée puis décuplée par le Saint-Esprit. Là-dessus, je veux vous amener quelque chose de vraiment important. Réfléchissons un peu. On a-tu été bénis depuis les trois dernières années? Non. Comment on a vu comment Dieu a transformé le mal en bien? Dieu a-tu fait des choses extraordinaires, mémorables, glorieuses, à travers toutes sortes d'épreuves et de difficultés, mais Dieu est tellement bon. Il nous a rencontrés en plein là où ce qu'on était. Il a fait des choses extraordinaires. J'espère qu'on ne va jamais s'habituer, prendre pour acquis, négliger la bénédiction de cet amour, ce plaisir fraternel, sain et bon qu'on partage ensemble, puis qu'on décuple. Il y a un effet multiplicateur. Et ça, c'est tellement beau, c'est saint, c'est unique. Et à cause de ça, c'est précieux, ça doit être chéri comme un trésor inestimable. Et je dirais là-dessus, attention. J'ai une application bien spéciale ici qui me vient directement à matin en priant avec mon message, tout ça. Tu sais, cette belle communion vivante par le Saint-Esprit, puis tout ça, que le Seigneur nous fait vivre, il y a une menace en ce moment là-dessus. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et je vois, je ressens, je discerne un esprit de peur qui veut s'immiscer. Peur d'être vrai, peur de s'ouvrir. Je dirais particulièrement pour nous les gars. D'après ce que moi je vois, là, tu sais, je dis pas que les filles, il n'y a pas ça qui... Mais on est dans une guerre spirituelle. Et cet amour parfait qui bannit la crainte, c'est ça notre liberté. C'est ça qui fait qu'il y a quelque chose de tellement spécial ici. Et juste un point ici bien important à comprendre. L'amour parfait bannit la crainte. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Essayez pas d'aimer Dieu parfaitement, vous allez vous décourager, vous allez tomber à terre complètement épuisé. L'amour parfait qui bannit la crainte, ce n'est pas le nôtre. C'est celui de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Amen. C'est ça cet amour, puis c'est quand qu'on s'en imbibe, c'est quand qu'on s'en nourrit, c'est quand qu'on prie, comme j'ai prié ça tantôt dans Éphésiens 3, ça aussi c'est du sur-mesure frais de ce matin là. Oui. C'est quand qu'on a cette prière qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous savez que c'est vrai individuellement, c'est aussi vrai collectivement, d'être rempli comme Église jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi que Dieu remplisse la place ici. Ça, c'est directement connecté à notre appréciation, à comment Dieu saisit notre cœur de son amour pour nous. Ou pour le dire autrement, de comment il prend plaisir en nous. Ça va ensemble. Dieu prend plaisir en nous parce qu'il nous aime. Parce que son amour pour nous est parfait. Et ça, ça bannit la crainte. Et je vois quelque chose... Moi, je dis les hommes parce que j'étais en relation avec des hommes plus, puis tout ça, ces derniers temps, à parler de certaines affaires. Mais évidemment, je veux dire, ça l'inclut tout le monde. Mais quand que je parle de ça, des fois, il nous arrive des épreuves, il arrive des choses, on est découragé ou... Peu importe. La pire affaire qu'on peut faire ou qu'on peut déduire, qu'on peut réagir, c'est prendre ça comme un signe que Dieu, d'une façon ou d'une autre, nous rejette, il ne nous aime pas. C'est une démonstration que Dieu fait ça avec nous. C'est le contraire. Et c'est ça qu'il faut tout le temps qu'on se rappelle. Ces choses-là n'arrivent pas parce que Dieu nous endure la face et qu'il veut essayer de finalement nous faire finir par comprendre. Ces choses-là arrivent parce qu'il nous aime. Puis oui, ça fait mal, puis oui, c'est pas évident. Mais c'est parce que Dieu sait ce qu'on a besoin. Puis quand on aime quelqu'un, on lui donne exactement ce qu'il a besoin. Et donc ça, c'est tellement... Ça, c'est le point principal de mon message. Dieu, parce qu'il prend plaisir en nous, il fait en sorte que oui, on passe par des choses de même. Mais c'est pas un signe de rejet, c'est un signe d'acceptation. Il nous laisse pas aller à notre folie. Il nous laisse pas aller à notre endurcissement, à nos faux raisonnements. Il nous aime, puis il s'occupe de nous autres. Amen.
Amen.
Hey, il est bon, lui. On l'a importé de Montréal, de la France, puis Montréal. Merci, France. C'est un beau amen, ça. Vous allez, tantôt, vous allez l'entendre parler après-midi. Gloire à Dieu. Je suis content que tu sois là, frère. Sois béni. Maintenant, écoutez bien, là. Ça, c'était pas mal un point que je voulais amener, mais voici une autre implication ici sur l'implication fraternelle. De croire que Dieu prend plaisir en nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que Jésus a dit qui serait la marque distinctive que nous lui appartenons? Jean 13, quelqu'un? L'amour qu'on a les uns pour les autres, hein? Je vous le lis, là. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas c'est la bonne théologie, c'est les bons bords sur les bontés. Non! À l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est la marque distinctive de notre identité chrétienne collective. On n'est pas un club social glorifié. On n'est pas la meilleure des religions, ceux-là qui l'ont plus que les autres. On n'a rien de mieux que personne. Ce qui nous distingue, c'est Dieu, sa présence parmi nous, son amour. C'est ça qui nous caractérise. D'ailleurs, c'est quoi la prééminence de l'amour? Fruit de l'esprit, première affaire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ainsi de suite. L'amour, c'est l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et vous connaissez hein, les deux plus grands commandements. Mais le Seigneur nous dit de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes. C'est dans cette perspective-là, dans cette compréhension, spécialement à la lumière de la nouvelle alliance dont on a parlé dans les dernières semaines, on voit la puissance motivatrice unique de l'Esprit de Dieu en dedans de nous, puis qui s'extériorise entre nous autres. Ça, mes amis, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est la beauté de la rédemption de Christ en nous, parmi nous. Ça, là, faut jamais qu'on prenne ça pour acquis puis qu'on le néglige. C'est ce qui fait que cette Église est vivante. C'est Dieu en nous, à travers nous. Et savez-vous quoi? La beauté aussi là-dedans, Nouvelle Alliance. Écoutez ce que ça dit dans Jérémie, puis ça fait partie, là, c'est pas tout... mais il y a quelque chose que ça dit dans la Nouvelle Alliance. Au chapitre Jérémie 31. Ah, j'ai pas mis le bon verset sur ma feuille. Mais je vais vous le dire, ça dit, la Nouvelle Alliance est caractérisée que Dieu écrit la loi sur mon cœur, puis qu'on n'a plus besoin de dire aux frères, fais ceci ou fais cela. Parce que tous vont être enseignés de Dieu. Puis là, c'est pas parce que, ah, okay, vous pouvez vous lever, puis vous avez besoin de message, puis ça serait pas une bonne publicité pour quelqu'un qui est en train de prêcher. C'est-à-dire que le vrai enseignement qu'on a, la réalité de ces enseignements, parce qu'on peut être ici, puis ça part par-dessus la tête, ça peut rentrer par une oreille, sortir par l'autre. Le vrai enseignant ici, c'est Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui vraiment qui enseigne. Donc, on n'a pas besoin d'aller de gauche à droite, dire, toi fais ci, toi fais ça, toi fais pas ci, toi fais pas ça. Non, ce qui nous unit, c'est un désir commun pour Dieu. Un désir commun, ou on pourrait le dire autrement, un plaisir commun qu'on prend en Dieu. C'est ça qui nous unit. On veut Dieu. Amen. On veut ses voies. Amen. Est-ce qu'on est parvenu? Est-ce qu'on l'a? Eh non, on a de la misère. Mais justement, c'est ça qui est aussi qui est le fun. Ouais, hein, t'as de la misère, ben c'est le fun parce que moi aussi j'ai de la misère. Puis on se comprend, on se soutient. Puis on sait pas qu'on se prend tout en pitié, puis ça, mais... Hey, on a de la compassion les uns pour les autres, puis on soutient les uns pour les autres. Ça dit que des fois, un membre est faible, un membre est dans un état, puis les autres peuvent le soutenir. Des fois. Puis il y a des membres qui sont pour tel but, puis d'autres pour l'autre, puis il y en a qui paraissent plus, il y en a qui paraissent moins. Tout ça, ça fait que Dieu fait son œuvre dans cette communion fraternelle bénie. Et ça m'amène à la troisième implication, l'implication relationnelle. Et là, c'est le côté évangélistique. On a vu une individuelle, on a vu une église comme la nôtre. Mais savez-vous quoi? Que même le fait qu'on comprend ça, le fait que Dieu prend plaisir en nous, ça a des implications au niveau évangélistique. Quand je dis relationnel, c'est dans nos relations avec les gens du dehors. C'est une façon toute nouvelle de considérer l'évangélisation. J'espère que vous ne considérez pas l'évangélisation comme la réponse à un plat, mais plutôt l'appel à une personne. C'est ça, l'évangélisation. On appelle les gens à être réconciliés avec Dieu. C'est ça que Paul dit. Nous en supplions au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Répondez au plan qu'on a pour vous. Non, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une personne, c'est Dieu, c'est personnel. Et oui, il y a un plan parfait, il y a un plan original, mais c'est lui qui ramène à ce plan. C'est une personne. C'est pas juste des vérités froides dans un livre. C'est celui qui les incarne, Jésus-Christ, puis qui nous ramène à ce plan divin, parfait. Puis, ça amène vraiment une approche différente dans la façon qu'on voit les choses. Je vais vous donner un exemple des Écritures, puis un exemple que j'ai vécu dernièrement. Mais il y a quelque chose de spécial. Moi, j'aime tellement l'épisode de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4. Vous savez, cette femme-là, elle essaie de combler ses besoins fondamentaux, ses choses en dedans qui crient, là, pour l'accomplissement. Elle, elle a eu 5 maris, puis le 6e n'était pas son mari. Et vous, il y a toute une honte, mais aussi une symbolique. 6 était incomplète, ces chiffres de l'homme. Jésus arrive comme le 7e, comme le vrai mari, l'époux de son âme. Il y a quelque chose là-dedans, il la rend complète. Elle qui était toute, qui tombait tout le temps à court. Il vient puis il accomplit. Il y a une image forte là-dedans de la rédemption. Jésus qui est là puis qui restaure de la chute. Puis, on peut amener, là je parlais de l'image de cette femme, mais mettons qu'on prend, ah tiens, je vais en prendre, attends, tiens, celle-là. Un papier, il est déjà un peu froissé. Nous sommes l'image de Dieu. Mettons ici, imaginez-vous, là, j'ai oublié de prendre une photo, là, j'ai repris ma photo, ça n'aurait pas été très fin. Mais vous savez quoi? Nos vies en dehors de Jésus-Christ, c'est ça. L'image est tout froissée, tout chiffonnée. Puis qu'est-ce que Jésus est allé faire avec la femme samaritaine? Qu'est-ce qu'il fait avec nous autres? Puis là, je sais pas le faire parfaitement, là. Puis au ciel, ça va être parfait, mais... Il nous remet sur le sens du monde. Puis il prend l'image de Dieu en nous, puis il la restaure. Puis il la met en présentation, il dit, regardez, c'est mon œuvre, c'est glorieux. Ça, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Ça, c'est ce que moi, je fais. Amen. Puis là, mais il reste encore des froissures. En fait, c'est bien que ça soit de même, parce que c'est encore de même. Les perfectionnistes ici, vous savez quoi? On va être pogné avec une feuille restant chiffon de même, jusqu'à temps qu'on soit. Au ciel, elle va être pristine, elle va être... Vraiment, là, ça va être éclatante. Oui, ça va. Et donc, Jésus est venu rétablir l'image en nous. Et lorsqu'il met son plaisir en nous, et nous qui le mettons en lui, c'est ça l'aboutissement de l'évangélisation. C'est ça qu'on présente à quelqu'un. T'es tout froissé. T'as besoin d'être rétabli. C'est vous, c'est comme ça que je présente l'Évangile aux détenus. Ça les prend de court. Il y en a beaucoup qui viennent, là, puis ils s'attendent à avoir quelqu'un, puis il y en a qui veulent confesser le péché. Il y en a qui veulent... Ils voulaient vraiment dire la petite prière. Ils avaient entendu ça. Ben, je peux-tu dire la prière? La prière de repentance, là. Puis, savez-vous quoi? Quand on présente l'Évangile de cette manière-là, comme la réconciliation avec une personne, comme celui... qui est venu pour nous restaurer des conséquences de la chute, de notre peur, de notre rejet, la honte, ça l'amène des choses complètement différentes. Puis, je vais vous donner l'exemple, parce que je vous dis, j'avais un exemple vécu. En fait, il y en a deux qui sont arrivés de main. Puis, ben là, tu sais, c'est déjà... Soyez surpris des fois comment Dieu, là, il travaille de façon... là. Des fois, je vois des gars en prison, puis des fois, c'est des lifers, des fois, c'est juste des gars qui sont là... plus ou moins de passage. C'est surprenant comme un qui a été exposé à l'Évangile, clairement. Par un ami, puis tout ça, ou par ci, puis ça, puis en tout cas. Là, cette personne-là avait une connaissance basique du vrai Évangile, OK? Puis là, on parlait, puis dans le fond, il me dit, « Ouais, mais là, si je crois, là, va vous le traduire, la vie va être vraiment plate. Fait que là, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça, plus de plaisir. » Il dit, je comprends ce que tu veux dire, mais tu as complètement les affaires à l'envers. Tu connais pas c'est quoi encore le vrai plaisir. Tu sais pas c'est quoi encore la vraie vie. Tu penses que tu le sais. Puis là, je prends mon illustration que moi je prends quand que je parle de mon témoignage. Là, là, puis là, je veux pas être rude, de toute façon, je peux parler rough avec les gars, mais là, là, c'est comme si tu veux fouiller dans les poubelles, tu sais, il y a des bonnes affaires encore dans les poubelles, puis t'as le roi des rois qui a un festin devant toi, puis tu veux aller dans tes poubelles. C'est quoi le vrai plaisir? C'est quoi la vraie vie? Il n'y a pas de comparaison. Puis ça, ça les fait réfléchir, mettons. Puis, je dirais, écoutez bien, je vais vous donner quelque chose d'important par rapport au plaisir. Vous voyez, il y a des choses que Dieu nous donne légitimement, qui viennent de lui, mais qu'on on emploie mal. Tu sais, on va être accepté des autres. C'est de Dieu, ça. Je dis, parce qu'être accepté de lui, puis aussi accepter... Dans le plan original, là, ça serait le même que ça marcherait. On s'aimerait tous. On serait tous dans cette acceptation. Mais à cause de la chute, ça ne marche pas. Puis là, on a du rejet. Puis là, des fois, on veut retrouver dans les personnes que juste Dieu peut nous donner. Même, parlons, mettons, le sexe, c'est Dieu qui nous a créé des êtres sexués. Puis, ben, il y a des façons, dans le plan de Dieu, de trouver ce que Dieu a voulu pour nous avec ça, puis il y a des façons en dehors. On pourrait voir ça, si vous voulez, comme ces désirs-là, c'est comme des réacteurs que Dieu nous a donnés pour nous propulser vers lui. Parce que ça vient de lui, puis il l'a créé pour lui. Puis quand c'est fait en lui, ça nous amène à lui. OK? C'est juste deux exemples que j'ai donnés. Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, la configuration d'origine, là, c'est... Ils pointent vers le bas, puis ça nous propulse vers le haut. Mais le problème avec la chute, c'est que ces réacteurs-là sont dirigés vers nous autres. Ça fait bobo, c'est pas bon. On n'est pas obligé d'avoir un réacteur qui crache du peu sur nous. C'est ça qui arrive. Ces plaisirs, ces choses-là, qui originalement sont dans le plan de Dieu, quand on les dirige vers nous autres, c'est l'autodestruction. Puis la rédemption, lorsque Dieu nous sauve, la rédemption, ça fait partie de ça, de rediriger ces réacteurs, les rediriger dans la bonne direction pour les diriger vers lui. Tu sais, dire à quelqu'un, oh, fais pas ci, fais pas ça. Il est là, puis lui, il peut pas comprendre, parce que lui, tout ce qu'il a connu, c'est ça, c'est les réacteurs tirés sur lui. Dirige-le dans la bonne direction, tu vois. Ça, c'est le vrai plaisir. Ça, tu as été créé pour ça, puis ces réacteurs-là qui t'ont été donnés, c'est pour Dieu. Dieu te les a donnés pour lui.
Amen.
Je sais pas si vous savez, là, mais il y a une théologie là-dedans. Il y a une implication, là. La rédemption de nos désirs.
Amen.
C'est biblique. En fait, je dirais, des fois, les chrétiens, c'est un sujet tabou. Faut pas parler de ça. Non, parce que ça vient de Dieu. Faut pas parler de tout. Il y a un aspect très laid. Tu sais, je ne vais pas vous parler en détail de c'est quoi tout ce que ça implique, avoir les réacteurs dirigés sur nous-mêmes. Effectivement, ça serait déplacé. Mais Dieu a créé des réacteurs dans notre vie, là, des choses comme je viens d'en donner, là, qui sont faites pour nous diriger vers lui. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, c'est pas mal ça aussi, son idée. Là. Dieu t'a donné des désirs, puis tu sais, si tu les diriges vers toi, tu passes à côté. C'est ça le message de l'Ecclésiaste. Il écrivait à des païens, c'était évangélistique, le livre d'Ecclésiaste. Donc, la rédemption inclut le rétablissement de nos désirs, de notre plaisir. On prend plaisir en toutes sortes de choses, sauf en Dieu. La rédemption, c'est la rédemption de nos désirs. Puis pourquoi il y a un problème avec ça? Pourquoi c'est un sujet tabou? Pourquoi c'est mal compris? À cause il y a une attaque à l'Évangile dans le monde chrétien. Je n'ai parlé, je le répète. L'Évangile de privation. Hey, faut pas que tu aies de désir. Zéro, va pas là. Puis l'Évangile fast-food. Bon, c'est pas grave, fais n'importe quoi. Les deux ne règlent pas le problème des réacteurs. Ils restent toujours dirigés dans la mauvaise direction. Il y en a un qui essaie de couper le flot, puis ça ne va pas arriver.
Mm.
Puis l'autre dit, bon, ben vas-y, c'est pas grave. C'est l'autodestruction. La rédemption, c'est le prendre ces désirs-là puis les rediriger vers là où Dieu intentionnellement a voulu les diriger.
Amen.
Donc, juste un petit point ici. On parle d'évangélisation, l'implication personnelle, relationnelle, pardon, de croire que Dieu prend plaisir en nous. Je dirais que dans notre relation avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est le plaisir d'apprécier en abondance l'espérance et croire que Dieu peut restaurer. Il est le Dieu de toute grâce.
Amen.
Moi, vous avez vu, ça me motive. Je vois dans les lieux comme une prison, là, puis je sais que Dieu peut transformer des vies. Je sais, je l'ai vu.
Amen.
Je sais que Dieu le fait. Vous l'avez vu aussi, vous avez été témoin de ça. Donc, voyez-vous comment cette théologie biblique du Dieu qui prend plaisir en nous, puis nous qui prend plaisir en lui, a toutes sortes de ramifications. Ça nous amène à envisager les choses différemment. Par exemple, quand j'ai quelqu'un, un contact d'évangélisation, quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis que moi je suis chrétien, puis j'y ai parlé, puis je prie pour cette personne-là, je l'aime, je veux qu'il vienne au Seigneur. Est-ce que la relation avec cette personne-là, je la considère de façon rédemptrice dans l'espérance du salut? Ou est-ce que je la considère de façon humaine comme un fardeau, puis ben il faut qu'elle change? Puis il faut que j'arrive à la faire changer, je vais essayer de la changer. Il n'y a que le fardeau est sur mes épaules. Puis ça met la mort dans la relation parce que le but, c'est « faut que tu changes ». Puis l'autre, il y a une liberté d'aimer, de la vie, de laisser la personne face à la personne devant qui on met. T'es face à Dieu, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Là, ça ne nous appartient plus. Puis là, c'est plus qu'on essaie de changer, on la présente à la personne qui va la changer. Nous, on ne peut pas changer personne. D'ailleurs, c'est bon dans les relations tout azimut, là, fraternelles, conjugales. Donc, que Dieu puisse nous enseigner toutes les implications de ce qu'on voit avec cette vérité aujourd'hui, le Dieu qui prend plaisir en ses enfants. Je termine avec ça. On a vu des vérités précieuses, n'est-ce pas, matin? En tout cas, oh, merci. Dieu qui prend plaisir en nous, pour moi, c'est précieux, c'est comme, wow! C'est des vérités que j'ai besoin que Dieu grave sur mon cœur, qu'il les révèle au plus profond de mon être. Mais voici ce à quoi je vais amener les choses. Dieu nous donne des vérités pour qu'on se les approprie par la foi. Qu'on s'est approprié dans la simplicité de la foi. Dieu ne nous donne pas des vérités pour passer un dimanche matin, c'est ça qu'on fait. Non, Dieu nous donne des vérités parce qu'il veut faire de quoi avec dans nos vies. Il veut former Christ dans ses enfants. Il veut sauver ceux qui sont encore en dehors de Christ. C'est pour ça que Dieu nous donne la vérité dans son amour. Parce qu'il y a un but pour nous transformer. Maintenant, où ça commence? Je pense que la meilleure façon de s'approprier une vérité, savez-vous c'est quoi? Je vais vous donner une vérité super, je vais vous donner quelque chose, écoutez bien, c'est vrai, c'est vraiment compliqué. Écoutez bien, là, c'est un gros bagage théologique, là. Prenez des notes, là. La meilleure façon de s'approprier les vérités bibliques, simplement dire merci, Seigneur, pour ça. Ça paraît niaiseux, mais quand on dit merci, là, c'est parce qu'on reconnaît, hey, merci. Merci, je l'ai. Moi, le matin, je me suis levé, là, puis Dieu, il prend plaisir en moi, c'est, hein, merci, Seigneur. Tu sais, c'est comme, c'est vrai. Merci. Quand on dit merci, on confesse avec notre bouche qu'on accepte, qu'on apprécie ce que Dieu nous a déjà donné. C'est par la foi qu'on dit merci comme ça. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je termine avec notre cher Habacuc. Ah, Habacuc, j'aime donc ça. Il y a deux affaires là, vraiment fortes dans Habacuc. Le juste vivra par la foi. Hein? Le juste vivra par sa foi, ça dit dans Habacuc. Quand Amen. C'est cité, ça dit la foi, mais c'est sa foi. Puis Habacuc a été éprouvé là-dessus, comme nous autres. Là. Habacuc, c'est un homme de la même nature que nous, puis lui aussi, ça n'allait pas très bien, puis tout ça. Puis mon frère, lui, c'est drôle pareil. Hein? Fait que je l'ai noté un matin, en préparation au message, c'est quelque chose qui est venu encore sur mesure. Pour moi, c'est un esprit, il y a quelque chose à voir là-dedans. Là. Mais ça n'allait pas bien. Il y avait des calamités, le jugement de Dieu. Puis qu'est-ce qu'Habacuc dit? Habacuc était perplexe. Mais voyons Dieu, ça ne marche pas. Pourquoi tu fais ça? Puis, je vais parler dans les détails du livre d'Habacuc, puis vous irez voir vous-même, mais il ne comprenait pas comment Dieu, qui est saint, allait juger son peuple avec des méchants comme Babylone. Des très méchants, là, reconnus pour leur méchanceté incroyable. Et voici ce qu'il dit. Je veux me réjouir en l'Éternel, mon Dieu. Il y a une décision dans son cœur qui dit, à la place de rester focusé sur ce qui me dérange, sur ce qui me rend perplexe, sur ce qui me trouble, je veux me réjouir. Je choisis. Puis quand on prend plaisir en Dieu, c'est pas quelque chose qui va arriver automatiquement sur le pilote automatique. Notre nature humaine, nos tendances humaines ne nous portent pas dans ce sens-là. Il y a un choix délibéré qui doit être fait. Le choix de la foi. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je dirais qu'en ce moment, là, pour moi, pour ma femme, c'est quelque chose qui est très libérateur.
Amen.
Du fait de voir Dieu. Qu'on voit, tu sais, c'est ce que ça dit d'ailleurs dans Jacques, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et ça, c'est quand on comprend le Dieu qui nous les envoie. C'est quand on le connaît, qu'on voit que Dieu nous envoie ça selon son bon plaisir et parce qu'il prend plaisir en nous. Oui, l'épreuve, oui, ce qui peut nous arracher le cœur, c'est parce que Dieu prend plaisir en nous. Ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me calme. Ça m'apaise. Parce que des fois, on aurait le goût de jeter la serviette, d'abandonner. Et donc, voici comment je vais vous amener à répondre au message. Quand on a le temps de prière, hein, c'est premièrement pour répondre à ce que Dieu nous a dit à travers le message. Je veux simplement vous dire ceci ce matin. On parle de s'approprier, de dire merci. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ton salut, que tu es passé de la mort à la vie? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux regarder comme c'est accompli. Es-tu né de nouveau? Si t'es pas né de nouveau, en Christ est la vie. Jésus a dit que celui qui vient à lui, il va pas le mettre dehors. Jean a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas en vie spirituelle. Vous avez la vie dans votre corps, mais vous êtes mort dans vos offenses et vos péchés. Vous devez venir à Christ pour avoir la vie. Et pour les enfants de Dieu ici, simplement s'approprier cette vérité merveilleuse de l'abondance qui vient, l'abondance de la joie, de la paix, de la grâce, simplement en acceptant comment Dieu prend plaisir en ses enfants.
Amen.
Merci Seigneur, c'est simple avec toi, c'est la foi. Tu ne nous demandes pas de nous casser la tête, tu demandes d'accepter, de croire ce que tu nous révèles sur toi. Et tu nous montres ce matin, tu es le Dieu qui prend plaisir en tes enfants. Seigneur, pour moi, j'ai de la misère à vraiment accepter ça, mais je te remercie que dans ta grâce, tu es en train de l'écrire sur mon cœur même. Et je prie, Seigneur, que tu l'écrives sur chacun de nos cœurs. Et que, Seigneur, ça soit cette force motivatrice qui nous pousse vers l'avant. Ces réacteurs qui soient redirigés vers toi, Seigneur, tu nous as donné des désirs, des choses auxquelles on prend plaisir, mais tu les as créées pour toi. Seigneur, ces choses qu'on dirige dans la mauvaise direction qui nous détruisent, on veut te les donner, Seigneur. On veut te laisser, toi, les rediriger vers toi, selon ton plan original. Seigneur, avec toi, il n'y a que bonté, que beauté, paix et joie. Et donc, Seigneur, on veut s'approprier ces plus grandes et ces plus précieuses promesses. Et on te remercie, Seigneur, qu'on les a tout pleinement en toi. Une seule place. C'est merveilleux. On te loue, Seigneur. On te bénit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prier.